15h27, 418-971-1021.
Je veux juste dire que je crée l'injustice.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la référence.
Tu parles de quoi, là?
Butter peanut. C'est parce qu'on est passé à autre chose, là.
Ouais.
Ouais, mais moi, ça, je l'ai sur le cœur encore.
Des fois, je vidéo, des fois, je vis des bas, mais la plupart du temps...
Je vis ma vie de vinaigrette.
Ma vie de vinaigrette!
Ah, pas la ref. Ah, pas la ref.
Je vis ma vinaigrette.
Oui. C'était pas exemple.
Excuse-moi là-dessus.
Du tout.
Ce qu'il faut que je sois honnête, là, je vais me confesser à vous, mais je vous ai écouté tantôt quand vous avez fait de la
t'as
référence.
Triché.
Oui.
Ah. Fait que t'as l'air intelligent, ce monde.
Oui, oui, mais là, je t'ai dit que j'allais le backer, mais je te backerai pas sur la vinaigrette, par contre. Ça, là-dessus, je te backerai pas.
Ça, c'est correct. Et là, tu vois, sur le texto, quelqu'un nous mentionne « Mes enfants de 8 ans et 6 ans chantent ça non-stop, beurre de peanut. » Fait qu'on vient de passer ça à une nouvelle génération.
Ben oui.
Je trouve ça superbe.
Good job, Kraft.
Ça fait changement de golden.
Donc, je vous rappelle, c'est le duo Bill qui avait eu ce hit-là, un one-hit wonder, là, un vrai de vrai au début des années 80. Et concernant la vinaigrette, est-ce que quelqu'un se souvient... de la formation.
C'est avec ses échalotes, là.
Oui.
Des fois, j'ai vu des hauts, des fois, j'ai vu des bas. Mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Des fois, j'ai vu Valdi, des fois, j'ai vu chez soi.
Moi, j'ai l'impression que Kraft a une pub de vinaigrette qui est prête pour le printemps.
Quelqu'un venait couper le cordon de mon watt.
C'est Marc Drouin, ses échalotes.
Marc Drouin, ses échalotes. Ouais. Mais ça, je me rends compte que j'ai déjà entendu.
Celle-là?
Moi.
Je vis ma vinaigrette, des fois, j'ai vitamine.
Bon, je te fais jouer pied de poule pour avoir fait le tour.
Ah, mais ça, j'en connais par cœur.
Ah, celle-là, t'as connais?
Eh oui.
Ah,
OK. Bon, mais ça, ça...
C'est un SOS! Ouais.
Ah, il y avait la chorégraphie qui venait avec, hein? Ben oui.
Papa, c'était comment vivre au Québec en 1980? Ben, c'était pied de poule, de la vinaigrette, du beurre de pinot, puis on a perdu le référendum.
J'applore des larmes de métal aussi. On l'a dans c'est funky, dans les années 80. Allez, faire le refrain. Là. Manque-tu, on les
moi,
a toutes,
c'est vraiment le SOS. Là.
Mais elle, c'est la meilleure à date.
Wow! C'est une danseuse.
C'est un SOS.
C'est un SOS! T'écœurant. Bon, il y a des tunes qui nous manquaient. Il nous manque les larmes de métal. Qui a été texté.
Norman Bratois, tu soupires.
Puis on en a une autre qui vient de nous être envoyée. De Plastique Bertrand.
Là, juste vous dire, pied de poule, Geneviève Lapointe. Le saviez-vous?
Okay, non.
Non? Moi non plus. Soupir, larme de métal.
Ouais.
À une époque où... il y avait un sourire d'en face. Norman Bratois, ça fait très longtemps, là. Ah, yeah, je suis d'une pub d'ancêtre. Tabarnouche, ça a l'air tough la vie de Norman Bratois. Les larmes de métal, par exemple, je ne pense pas qu'elle est sur Spotify. J'ai souvenir de l'avoir déjà cherché.
Les larmes de métal.
Ouais, non, on n'a pas la,
okay,
on a pas la
on
bonne.
On parle du rap à Billy.
Ah, le rap à Billy, ben ça, c'est Francœur. Là, ouais, là t'embarques dans mes affaires. Là. Ouais, ouais, le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Bailey!
Vivre dans la nuit de Niagara.
Oui.
Non, c'est Nuance.
Nuance, ouais, c'est pas Niagara.
C'est pas Niagara. Niagara, c'était le feu et toutes ces affaires-là. Mais il t'en manque une de Plastique Bertrand qui est très importante dans la tonalité.
C'est quoi?
Stop ou encore?
Mais là,
encore!
Y en a... Plastique Bertrand en avait beaucoup, par exemple.
Incroyable.
Oui, stop ou encore, tout petit la planète, ça plane pour moi.
Eh hey, mon Dieu! Beaucoup.
Le bac où je deviens cloche, je vais en fac ou au cinoche, je prends la porte où je me supporte, je fume du hache ou des gauloises, je fais des gars ou des ardoises.
Genre Hubert le Noir belge.
Artiste, je suis très vieux,
Ben, Hubert Lenoir a rien inventé.
Oui, oui. Ouais.
Je chante avec une voix bizarre puis j'avale un micro. Ben oui, il y en a qui a fait ça avant toi, là. Stop, stop. Qu'est-ce que je fais?
Je m'arrête.
Je m'ennuie ces années-là, finalement. C'est bon.
OK, on va arrêter ça là. On va jaser de char un peu avec Sam Tremblay-Michaud. Puis en revenant, on se fait. On se donne du gaz. One Hit Wonder.
Oh my God.
Made in Québec.
Ah, oh, j'aime ça.
C'est bon. Okay? Ça prend des tunes québécoises. De groupe, amenez-moi pas beau dommage, là, c'est pas ça qu'on veut. Là.
Non,
on,
non,
veut
non.
On veut Nuance, Vive dans la nuit. On veut.
C'est funky, là.
On veut Cash Tune avec Mouk Taboué. On veut.
Des vrais, vrais One Hit Wonder.
Puis en même temps, mais ça va nous permettre de pratiquer nos futurs quotas là, avec le CRTC
bon
là, en jouant Cash Tune. On va essayer de se rattraper un peu. Une petite dernière pour la route. À l'époque où Normand Brathwaite essayait de faire du Peter Gabriel. Je l'aurais-tu dansé le robot dans les années 80?
Je t'aime, c'est toi que j'aime.
Pourquoi as-tu fait ça?
Est-ce que genre, bye-bye, mon cowboy peut rentrer là-dedans?
C'est pas un One Hit Wonder.
Oui, moi j'embarque.
Il y a eu plus de succès que ça, Mitsu.
Les Chinois, puis. Hey, on fera pas les précieuses, là. Dis-moi, dis-moi, pourquoi, pourquoi? Dis-moi pourquoi, pourquoi tu t'en vas? C'est une alarme. C'est un signal. Je casse des larmes de métal. Malade. Complètement malade.
Hey, wow, ça me tente full.
On s'amusait tantôt. 15h34, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Fait que pensez à vos tunes, soit pour appeler ou encore si vous n'êtes pas dans un contexte pour téléphoner, vous pouvez nous les texter 418-971-1021. Audrey puis moi, on va tenir le compte.
Ou encore mieux, nous les chanter.
Hein? Ah, j'aimerais ça.
On est toujours dans un contexte pour chanter au téléphone, particulièrement si vous êtes au travail. Là,
avec les collègues.
À l'église.
Hey, organisez-vous en groupe au boulot. Là. Vous travaillez dans une shop. Faites-vous une petite chorale.
Oui, au funérailles d'un ami pour forcer dans la chorale. Ah, oui, donc, let's go. On doit aller dans la circulation, Audrey.
Oui, si vous êtes sur la Capitale-Est, entre Henri IV et Laurentienne en ce moment, quand même difficile. Direction Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction Nord, hauteur Charest, il y a de bons ralentissements aussi. Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Dans Quetchanon, devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions. Et sur la 20 Ouest, sur la rive Sud, c'est entre Chemin des Îles et Taniata. Vous voyez autre chose? 88-971-102 texto.
Bam bam, mon chasse place, j'suis sur mon lit à bouffer sa langue en buffant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs.
Que je connais cette chanson-là pour une seule raison, c'est que de 2009 à 2010, à VRAC TV, il y a une émission qui a été faite, animée par Alexandre Morin, me semble, qui s'appelait Sa plane pour
ah,
moi.
Ah, pour vrai?
Et le thème, c'était exactement cette chanson-là.
Plastique Bertrand. Comme un alien dans son igloo. Qui était cœur, hein, d'ailleurs, Plastique Bertrand. Sa plane pour moi. Sa plane pour moi. Sa plane pour moi. J'espère que si vous faites face aux conditions routières, ça ne plane pas pour vous depuis le début de la journée. Ça a été difficile ce matin. C'est les bourrasques et les reflux subis de neige et de poudrerie là, qui sont problématiques, ou en tout cas qui l'étaient dans la dernière heure. On continue de suivre ça avec vous autres, 418-971-1021. Et en fin de semaine, ben, c'est les grands froids qui s'installent à la grandeur de la province. On fait partie des plus gâtés à moins 27. Abitibi, moins 45. Saguenay-Lac-Saint-Jean, moins 34, moins 35. Ça va être dur, ces moteurs puis ces batteries de char, ça, Sam Tremblay-Michaud.
Oui.
Ouais.
Ah oui, ça sera pas facile. Ça va être une grosse fin de semaine de survoltage. Les équipes de CA vont être dans le jus,
ouais.
C'est sûr.
Comment on fait pour réussir à starter son char en période de grand froid, Sam?
J'aime toujours prendre votre voiture en temps froid comme un adolescent qui veut pas se lever le matin. faut y donner une chance de se lever le matin. Faut le prendre tranquillement. Faut pas trop le brusquer, sinon vous allez juste le fâcher. Donc, c'est un peu le même principe avec votre voiture à moteur thermique. C'est de prendre le temps de bien faire décoller votre véhicule. Et pour faire ça, bien, soyez collaboratif avec votre batterie. Votre batterie de votre voiture, ça va être vraiment l'outil numéro un pour réussir à bien démarrer. Faut qu'elle soit optimale. Faut qu'elle soit en état de pouvoir donner toute l'énergie potentielle qui est là disponible pour faire fonctionner le démarreur, puis ensuite être capable de faire allumer le moteur. Donc ça, pour l'optimiser, ça, bien, il y a quelques bons trucs que je peux vous donner.
Oui.
Premièrement, essayez de fermer tous les accessoires non nécessaires avant d'essayer d'effectuer un démarrage de véhicule. Quand je parle d'accessoires, climatisation, les phares, l'éclairage d'ambiance...
Je suis tellement pas un modèle.
Non, mais je le rappelle parce que c'est juste pour vous donner une chance. Là, ouais.
Si tu mettons la radio, tout ça, ça veut dire que tu vas le mettre en accessoire, tu vas t'assurer de tout fermer avant de faire ton démarrage?
Exact. C'est juste une question de, tu le laisses un petit peu le vide vite, mais moi, ce que j'aime vous dire, c'est lorsque vous arrivez, admettons, ce soir ou demain soir à la maison, en stationnant votre véhicule, éteignez tout avant de retourner à l'intérieur. Comme ça, tout va déjà être fermé. Quand vous allez embarquer, bien là, votre voiture va pouvoir se concentrer sur l'élément central qui est de décoller le moteur. Ça va être ça, son travail, et la batterie va pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Si vous êtes un peu prévoyant et que vous avez un chargeur de batterie intelligent, ça va être le temps de le connecter. C'est un outil que j'aime beaucoup, un chargeur de batterie intelligent.
C'est quoi? Comment t'installes ça? Tu le laisses tout le temps là ou tu le mets le soir?
Ça dépend des types de personnes. Les gens qui vont circuler, des fois, tu sais, avec le télétravail un petit peu moins qu'avant ou qu'on fait toujours des courtes distances, c'est un outil qui peut être très pratique pour garder le bon niveau de votre batterie, à vrai dire, la garder la plus optimisée possible. C'est vraiment l'idée d'un chargeur de téléphone, si vous voulez, mais pour votre batterie. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, le chargeur de batterie intelligente, c'est garder votre batterie à un bon niveau sans la surcharger ou sans la laisser aller trop bas en termes de voltage. Donc, il va comme la garder dans un sweet spot, en bon français, pour être sûr et certain que, encore une fois, la batterie va être capable de bien faire son travail. Et quand il fait froid, l'enjeu, c'est ça, c'est que dans la batterie, il y a des liquides, selon les types de batteries qu'on achète, mais la plupart d'entre elles ont des liquides. Et ces liquides-là, partent en froid, trouvent leur vie très difficile et donc vont perdre leur efficacité.
Ça rentre par texto, puis c'en est une motadine de bonne, je trouve, démarreur à distance.
Et j'y allais. J'étais rendu là. J'allais là direct.
Puis je vais avoir une sous-question, M. Tremblay-Michaud.
Parfait, mais allons-y. Bien, écoute, pour le démarreur à distance, moi, je ne vous conseille pas du tout d'utiliser votre démarreur à distance. Je vous conseille d'y aller manuellement. Vous allez me dire, oui, mais Samuel, j'achète ça pour pas aller dehors lorsqu'il fait froid.
C'est un peu le but.
Je comprends, mais c'est un outil qui est mal fait, dans un sens où la plupart d'entre eux, il y en a maintenant, OK, des petit peu plus intelligent que d'autres, là. Mais la plupart d'entre eux vont essayer à l'infini d'allumer votre voiture, peu importe ce qui va se passer.
Fait que si, mettons, le démarrage se fait pas, ben ça va juste être une loupe sans fin.
Exact. Donc, lui va juste tester et retester. Est-ce que le véhicule est capable d'allumer? Donc là, on va vider la batterie et ça va être impossible de le rallumer ensuite parce que votre démarreur va avoir simplement épuisé toutes vos chances.
J'ai mon démarreur sur mon application, sur mon téléphone. Il m'indique quand le moteur est allumé.
Ouais.
C'est-tu moins pire?
Probablement que oui, parce que toi, tu peux le voir en tant qu'utilisateur. Ouais. Tu dis, OK, j'ai réussi, mais si vous voyez que ça n'a pas réussi la première fois, réessayez pas. Le but, c'est pas de le tester à l'infini.
Si j'ai un message d'erreur, ça s'arrête là et je ne me réessaye pas.
Exact. Okay, le meilleur truc, ça va d'aller manuellement le faire. Parce qu'il y a une chose à savoir avec les démarreurs à distance aussi, puis je pense que c'est là le piège de plusieurs personnes, c'est lorsque le cycle de chauffage est fait, ça dépend de votre rapidité le matin, mais si, mettons, vous avez laissé le 15 minutes aller, puis vous n'êtes pas allé dans votre voiture mettre la clé pour le démarrer comme il faut, il va s'éteindre, le véhicule. Donc lui, il a fait son cycle de chauffage, mais là, vous me voyez venir. Il est resté en place à virer au point mort et a juste réchauffé l'habitacle, donc la batterie ne s'est jamais rechargée. Donc là, la batterie qui avait très, très froid a peut-être réussi à faire un premier décollage avec le démarreur à distance, mais si vous n'avez pas été assez rapide pour reprendre le contrôle manuellement et que là, il faut rallumer le véhicule, mais là, la batterie, elle s'est vidée. Okay. Donc, vous augmentez vos chances d'avoir des problèmes en utilisant votre démarreur à distance par terre.
Puis mettons qu'on parle maintenant d'auto électrique.
Oui.
Parce que c'est une réalité de plus en plus
présente. Une amie.
Pour une amie, oui.
Ben, pour une amie des auditeurs. C'est-tu la même affaire?
La voiture électrique, elle a vraiment un avantage dans le temps froid. Son gros défi, c'est qu'elle a une grosse batterie, mais généralement, lorsqu'on est équipé d'une borne à la maison, les voitures vont utiliser l'énergie de la maison pour garder une bonne température de la batterie. Donc, faire attention, on appelle ça le préchauffage de la batterie, pour s'assurer que justement le véhicule soit optimal pour s'allumer le matin. Si on n'a pas de borne, c'est vraiment un choc thermique qui est difficile pour le véhicule. Fait qu'il faut vraiment lui donner une chance de se réveiller, encore une fois, prendre la route doucement avec le véhicule, gueule puis pas trop y en demander. De toute manière, les constructeurs protègent les batteries, donc vont vous permettre d'utiliser pas la puissance totale du véhicule disponible. Puis vous allez le sentir sur la conduite si vous n'avez pas connecté durant ce temps froid-là votre voiture.
Le démarreur à distance sur l'électrique, mettons, on dirait qu'il part pas ton char. On dirait qu'il fait juste le réchauffer.
Oui, exact. Ben, il n'y a pas besoin de le partir, dans le fond.
C'est ça. Fait que il n'y a pas de problème avec le démarreur à distance quand t'as un char électrique.
Du tout. Encore une fois, s'il est connecté à la maison, c'est vraiment un avantage parce qu'en plus, il peut utiliser l'énergie de la maison pour chauffer le véhicule. Et donc, il n'y a pas besoin de travailler sur l'autonomie restante. On va vraiment utiliser les composantes internes pour optimiser l'expérience. Puis vraiment, les voitures électriques par temps froid sont souvent les grandes gagnantes ou dans les cas extrêmes qu'on n'est pas capable d'y connecter puis qu'on leur fait vivre des chocs thermiques majeurs, les grandes perdantes aussi.
On est avec Sam Tremblay, Michaud, notre chroniqueur auto. Si vous avez des questions, by the way, avec la fin de semaine de grand froid qui s'en vient, gênez-vous pas, hein? 418-971-1021. On a un auditeur inquiet qui te salue parce que lui, il a de l'ouvrage en fin de semaine. Salut Sam, je déménage samedi. Est-ce que faire plusieurs voyages arrêt-départ pourrait nuire à ma batterie? Il y a 15-20 km entre mon logement et ma future maison.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus risqué. Si vous n'avez pas un camion si vous avez un camion, laissez-le virer. Là. Je sais que ce n'est pas très Greenpeace, je m'excuse, là, mais c'est une technique pour s'éviter des problèmes avec la batterie. Si 15 à 20 km, ça va dépendre si tu la grande route ou si c'est du digonnage en ville. Pourquoi je pose cette question-là? C'est que l'alternateur de votre voiture va recharger votre batterie. Plus vous roulez vite, plus l'alternateur peut bien faire son travail.
Okay.
Donc oui, si à chaque fois, vous n'avez pas le temps de réchauffer convenablement votre véhicule puis que vous essayez toujours de le rallumer, ça se peut que votre batterie se vide plus rapidement. Peut-être de vous traîner un chargeur, pas un chargeur, mais un survolteur portatif pourrait être une bonne idée. Ça pourrait vous éviter des problèmes durant votre déménagement.
As-tu d'autres trucs pour que le char puisse partir sans trop de problèmes?
Ben, essayez d'être prévoyant aussi, surtout pour les voitures à essence. T'sais, de faire le plein de carburant, c'est vrai que c'est un vrai truc. Là. Des fois, on entendait ça un peu comme les trucs de grand-mère. Là. Faites le plein avant une période de froid. L'idée, c'est qu'il peut y avoir de la condensation, de l'humidité dans votre réservoir à essence qui pourrait, lorsqu'il fait aussi froid que ça, geler et donc créer des problèmes d'allumage. Fait que d'avoir un réservoir d'essence bien plein pourrait vraiment aider à tuer la condensation dans le réservoir et donc vous offrir encore une fois une situation optimale pour démarrer votre voiture.
J'ai un Buick Envisio?
Envision.
Yes. Ah, il manque un N. Envision 2025.
C'est original.
Je trouvais ça beau.
Ben oui.
Ça
a l'air d'un TV, par exemple.
Ça a l'air d'un prix de la chanson européen.
Le Envisio de l'année.
Il semble que Maneskin aurait pu gagner le prix Envisio. Ouais, bref, ça vient avec un chauffe-bloc. J'imagine que ce sera le temps de le brancher.
Oui, absolument. C'est là pour ça. Le chauffe-bloc est une autre technologie disponible pour essayer de garder des composantes au chaud dans le véhicule. Tout dépendamment comment il est placé. On a les chauffe-moteurs qui vont être pour la panne à l'huile. Il y en a d'autres qui vont être pour le liquide de refroidissement du moteur qu'on va réchauffer. Ça dépend un peu du système que vous avez, mais clairement, dans des périodes de froid comme ça, utilisez les outils qui sont à votre disposition. Là.
Des bonnes questions rentrent présentement sur les textos. Combien de temps est recommandé pour faire réchauffer la voiture avant de prendre la route?
C'est une excellente question. Par temps froid, prenez le temps. Moi, je dis, puis tu sais, le CA va être d'accord avec moi là-dessus, mais entre 5 à 10 minutes, c'est suffisant. L'enjeu, c'est qu'on a comme l'impression que lorsque la cabine du véhicule est chaude, que le véhicule est prêt, mais ce n'est pas toutes les mêmes composantes qui vont travailler. Lorsqu'on allume le véhicule, c'est le moteur qui va se réchauffer, d'autres composantes externes aussi, mais la transmission est différentielle. Il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner dans le véhicule. Donc, le truc aussi, c'est lorsqu'on part avec notre voiture, c'est d'être délicat avec notre véhicule. C'est pas le temps de se faire des accélérations brusques, c'est pas le temps d'essayer de donner des gros coups de volant, c'est pas le temps d'essayer de jouer à la Fast and Furious. Là c'est le temps de lui donner une chance de se réveiller et de laisser les autres composantes, dont votre transmission, la chance de bien se réchauffer. Donc, je dirais pour le démarrage de la cabine, 5 à 10 minutes, mais après ça, lorsqu'on prend la route, essayez donc de faire un autre 5-10 minutes gentil avec votre voiture, des accélérations pas trop brusques, ça va lui donner une chance de vraiment bien se préparer à affronter la température.
L'autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, Sam, c'est au Saguenay, vous le savez, on aime ça essayer plein d'affaires, la consanguinité, quoi?
Tu sais qu'au Saguenay, maintenant, ils ont les quartiers blancs. C'est une manière de continuer à faire payer full de taxes au monde, mais à transformer les quartiers en patinoires.
Oui, bien, moi, j'avais un ami qui fait de la radio au Saguenay, que c'était sa sortie de patin traditionnel.
Ils l'ont refaite la semaine passée.
La première fois... Je veux saluer mon chum Fred qui fait ça toutes les années.
Chaque année.
Il sort ses patins puis il descend la rue chez eux qui est sable. belle glace.
Dans le quartier Chicoutimi, chez Trémy, bon où est-ce qu'il est frais en plus, puis c'est incroyable dans son quartier, ça devient glacé. C'est...
Là, on essaye des nouveaux abrasifs du côté de Saguenay, de la pierre concassée plutôt que du sable. On appelle ça du AB5. Ouais. Alors que le sable enrichi de pierre concassée, c'est du AB10. Ouais. Ils vont-tu tout fendre le pare-brise au Saguenay?
C'est vrai que c'est plus adhérent?
Ben, c'est drôle parce que j'ai vu passer l'article, puis ça a soulevé vraiment beaucoup de tollé. Il y a beaucoup d'automobilistes qui disaient « Ouais, mais là, t'as des, c'est des roches que vous mettez sur la chaussée, donc clairement, ça va briser plus les voitures.
Ouais. »
C'est-tu choquant, la petite maudite roche qui arrive et qui te fait un éclat? Tu peux pas le voir venir, tu peux pas rien faire.
Il y a rien qui est plus fâchant que ça, mais...
Ils sont tous dans le parc des Laurentides, puis ils t'attendent.
Ah, puis il y en a tellement beaucoup. C'est un calvaire. Ouais. Mais entre la AB5 ou la AB10, c'est la même composition. Hein, c'est qu'il y en a une qui a du sable simplement de plus dedans, mais le sable fait pas en sorte que la roche lèvera pas, parce que dans le mélange sable et pierre concassée...
C'est la même pierre?
Il y a de la pierre concassée.
Uh-huh.
Donc, c'est la même pierre. Et cette pierre-là, lorsqu'elle est sous un crampon de voiture, même s'il y a du sable, elle va lever pareil.
Mm.
Donc,
ta ville... Mais il va en avoir plus?
Ben, la ville, ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils font même pas ça pour l'économie. C'est que selon les tests que la ville de Saguenay a fait, ils disent que l'adhérence est meilleure pour les véhicules. Moi, honnêtement, je vais vous dire...
Dur ses patins, par exemple.
Dur ses patins, mais moi, je préfère quasiment plus avoir juste la petite roche que le mix sable-bouette qui te revole dans le pare-brise tout le temps, puis qui garoche encore des petits filaments de sable partout là, dans tes ailes de voiture. Ça, c'est rempli de cochonneries, ça crée de la rouille. J'aime quasiment mieux juste la petite pierre concassée qui va, oui, encore potentiellement péter votre pare-brise. Là, ça, malheureusement, il n'y aura pas de solution pour ça, mais qui, au moins, ne va pas non plus salir tout en dessous de votre voiture, ne va pas non plus rentrer dans des fissures pour essayer justement de créer de la rouille ou d'humidité. Fait que moi, personnellement, je trouve pas l'idée si folle que ça. D'autant plus qu'ils ne sauvent pas une scène. Hein. Pour ça, ils disent que ça coûte le même prix d'utiliser la AB5 ou la AB10. Là. Donc, entre le mix sable et pierre concassée ou juste pierre concassée, c'est le même prix.
Eux autres, ils disent que c'est vraiment l'efficacité qui leur a fait choisir.
Exact.
Parce que dans les quartiers blancs, le sable, ça change fuck all, ça glisse pas. Non, mais il l'utilise pas, c'est des quartiers blancs.
Non, c'est ça, exact, il l'utilise pas de toute manière. Mais moi, pour vrai, je...
C'est vrai que ça fait raciste des quartiers blancs, mais il appelle vraiment ça de même. Il y a le panneau quand
Écoute,
tu rentres.
On est où, au Texas?
Non, mais la première fois que je suis rentré, mettons, à Jonquière, j'ai vu le panneau. T'sais, Jonquière, quartier blanc ou genre ville blanche.
Quand
j'ai
tu sors comme... de la 170, là.
Je te dis, j'ai pogné un demi-là.
Il y a sûrement des amis de couleur remplis d'humour qui ont pris la photo.
Ben,
j'espère.
Un selfie à côté de la pancarte, là? Avec les yeux perplexes, là?
D'autant plus que c'est Jean Tremblay qui a amené ça. Hein. Ouais. On dirait que ça ajoute une couche de confusion, là. Ça ajoute une couche de. Qu'est-ce qu'il voulait dire?
Hey, j'ai le goût de te lancer là-dessus parce que ce matin, moi, j'ai vu l'affaire qui me fait le plus tilter en hiver. Le comportement d'automobiliste qui te frustre le plus en hiver, c'est quoi?
Les gens qui me suivent trop près.
Moi, c'est ceux qui déneigent pas.
Moi, il n'y a rien qui... Oh, ben ça, c'est parce que j'ai perdu mobiles, le conduit. Là. Tout ça, j'ai abandonné ça fait longtemps. Les igloos mobiles, j'avais un Ford Expedition en essai dernièrement, puis il a neigé beaucoup, tu sais. C'est un super gros VUS qui est super haut, puis tu sais, je fais 6 pieds, puis j'étais à bout de bruit avec mon petit balai pour enlever la neige sur le dessus, puis je me disais, bon, je peux comprendre que pour du monde, j'avoue que c'est un élément qui est chiant. C'est chiant faire ça, c'est pas plaisant, je comprends. Mais tu sais, pour la sécurité de tout le monde, c'est important de déblayer son véhicule.
Je suis toujours fasciné quand des véhicules d'entreprise qui sont étampés des deux bords avec le numéro de téléphone puis l'adresse Internet se promènent avec 2 pieds de neige sur le top du toit.
Ah oui,
ça m'est arrivé une couple de fois cette année. J'ai dit, le monde, à cette heure, c'est sans gêne.
Appelez.
Ouais. Appelez. Pas le temps, matin, on travaille.
J'ai le doigt.
Moi, le comportement qui me choque le plus en hiver quand il y a des accumulations comme ça, c'est la personne qui se lance où personne va puis qui se dit... Il y a une deuxième voie ici, d'habitude, je vais faire comme d'habitude.
Hey,
souvent, c'est un problème qui se règle par lui-même.
La voiture s'en va dans le fossé.
Ah, tabarnouche! Oui. Ça, là, tu sais...
Ouais, quand ça fait lever la neige aussi, ouais. Tout est tranquille dans ta voie, puis là, tu vois plus rien.
Puis toi, quand tu te mets à glisser, là, ben, tu peux nous pogner, nous autres, là, les gens qui ont le bon comportement. Là,
oui,
t'sais.
Vraiment. Puis tu sais, il y a le mix aussi. T'sais, ça, c'est peut-être trop de témérité, mais des fois, il y a des gens qui n'ont juste pas assez non plus. Tu sais, dans l'autre spec, quand c'est glissant comme ça, puis je le répète souvent, mais il y a des gens qui devraient pas prendre la route juste parce qu'ils sont pas à l'aise de le faire.
Ben oui.
Puis c'est drôle parce que dernièrement, puis je vais vous présenter ça à RPM très prochainement, je suis allé suivre un cours de conduite hivernal pour apprendre à conduire une voiture en hiver.
Ça existe, ça?
Il y a des écoles au Québec qui offrent des cours de conduite spécialisés. J'ai fait ça avec Marie-Laurence Paquin, qui est une pilote professionnelle. Elle, tu prends un cours, puis j'ai des parents de Boulevard, d'ailleurs, qui m'ont écrit dans le mois de novembre pour offrir ça à leurs jeunes comme cadeau de Noël.
Les parents d'Audrey?
Ben, je sais pas, mais...
1, j'ai appris à conduire en hiver.
En tout cas, mais je trouve que l'idée cadeau est super bonne aussi. Puis vois-tu, je me suis prêté au jeu de vivre les exercices, mais tu sais, de comprendre comment ton véhicule glisse, le freinage, comprendre la répartition des poids aussi, tu sais.
J'ai vu un spotter là-dessus. Tu voyais une voiture qui était en train de faire des
360,
des 360 dans un parking, puis la personne a écrit: si vous voyez un jeune en train de faire ça, appelez pas la police. Laissez-les faire, parce que de même, il est en train d'apprendre comment gérer son char. J'ai comme fait, pas fou. Quand il y a personne d'autre,
ben oui,
il est la seule personne qui est à risque, là.
Vraiment. Puis, tu sais, je pense que c'est ça le problème, c'est que notre hiver, on le sait, il revient tout le temps, mais à chaque année, on est surpris. Puis à chaque année, on dirait que le monde sont comme... J'aime pas ça, conduire quand il neige, mais faites-le pas, si vous êtes capable. Je comprends que des fois, on n'a pas le choix, là. Des fois, vous allez travailler, puis c'est la vie, là. Puis c'est pour ça qu'il existe aussi des écoles pour nous montrer comment faire des bonnes techniques de conduite. Mais, tu sais, souvent, les comportements que je retire, c'est que les gens qui ont souvent plus peur vont avoir tendance à suivre la voiture en avant, mais plus près, on dirait, pour savoir un peu où ils s'en vont, puis un peu comme un guide, tu sais. Mais le problème, c'est que moi, c'est mon comportement que j'aime le moins, parce que si j'ai à répondre rapidement...
C'est l'effet domino, hein?
Il faut que tu aies du temps, toi aussi.
C'est ça.
Si tu es à une seconde de moi, on réussira pas, là. On s'en sortira pas, là. Fait que souvent, l'hiver, c'est pas compliqué, là, mais c'est toujours les mêmes affaires. La distance, la vitesse, puis la visibilité qui passe aussi par le déblayage de nos véhicules.
Sam Tremblay, Michaud, chroniqueur auto, merci infiniment.
Hey, c'est un plaisir, merci de m'avoir reçu.
Oh, petite question d'un auditeur en terminant.
Oui.
As-tu du feu?
J'ai du beurre de peanut.
Yes! Boulevard!